Bonjour, vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes avec Régis. Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver en ce mois de juin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Marie-Pierre Fangeajuri. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Régis.
Et c'est un vrai plaisir parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Mmh. Et je voudrais bien savoir aujourd'hui, pour nos auditeurs, qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie.
Alors actuellement, je suis chanteuse, on pourrait dire artiste lyrique, dans le chœur de l'Opéra National de Lyon, et ce depuis 1990, 26 ans actuellement.
26 ans de carrière déjà.
Oui, alors voilà, c'est une carrière dans le chœur.
Oui.
Voilà, qui a commencé en fait après avoir fait des études depuis l'âge de 6 ans. À l'école de musique de Vienne, j'ai commencé par la flûte traversière.
Vous avez commencé à 6 ans?
Oui.
Un instrument?
Alors, ce qu'on appelait d'abord le solfège, et puis la flûte à bec, tout de suite, pratiquement. Et donc, j'étais à l'école de musique de Vienne, ensuite j'ai commencé la flûte traversière, et je chantais dans la chorale de l'école de musique. Vienne étant jumelée avec Esslingen en Allemagne.
Oui.
Quand j'avais 8-9 ans, nous sommes partis en chorale, chanter en Allemagne. Voilà, ça c'était le premier grand moment de chant.
D'accord.
Et puis j'ai chanté aussi dans la chorale.
Vous vous rappelez ce que vous avez chanté à Esslingen?
Ah non, non.
C'était un peu trop tôt déjà.
Oui, je me souviens simplement qu'on était hébergés, on était dans une auberge de jeunesse et qu'on avait des concerts en échange avec une chorale d'enfants aussi là-bas en Allemagne.
Voilà. D'accord.
Au même moment, je chantais dans la chorale de mon village, à Montsevereau, dans l'Isère, entre Vienne et Beaurepaire.
Oui, qui n'est pas si loin d'ici.
Non, je suis native de ce village.
Ouais.
Et donc, j'y ai chanté. Et puis donc, la flûte traversière a pris le dessus, en rentrant au conservatoire ensuite à 15 ans.
Conservatoire
à Lyon.
À Lyon, d'accord.
À Lyon, le régional.
Le CNR, hein, conservatoire
voilà, qui s'appelait Conservatoire National de Région, qui
de
s'appelle
Lyon.
Aujourd'hui le CRR, oui. Conservatoire à rayonnement régional.
D'accord.
Voilà. Et là, quand j'y suis entrée, donc c'était en même temps qu'en seconde, je suis rentrée au lycée Saint-Exupéry, en section...
Ah, oui. Saint-Exupéry, où j'ai été élève. Mais un voilà. Peu avant vous, je crois.
Peut-être. Et donc, j'ai passé un bac littéraire option musique, tout en étant au conservatoire. Et je faisais partie de la chorale du conservatoire. Et c'est là que, pour la première fois, je me suis retrouvée à chanter avec un orchestre dirigé par Claire Gibault,
ouais.
Qui était à l'époque chef d'orchestre à l'Opéra.
D'accord.
À l'Opéra de Lyon.
Ouais.
Et donc, j'avais préparé le Roi David de Arthur Honegger sous la direction de Paul De Cavatta, qui était un chef de chœur assez connu à Lyon, qui avait
oui.
déjà à peu près 80 ans.
Oui.
Voilà, donc ça a été le premier grand ouvrage que j'ai chanté. C'était donc ce Roi David de Arthur Honegger.
Dans les chœurs, donc.
Oui, dans le chœur du conservatoire.
Du conservatoire,
mais
d'accord.
Nous l'avons chanté au Théâtre Romain de Fourvière.
Ah oui.
Oui, alors il y avait énormément de jeunes.
Oui.
Donc des jeunes élèves de plusieurs établissements scolaires, du conservatoire. Mmh. Et voilà, ça c'était ma première expérience de chœur où Paul De Cavatta, donc le chef, quand il m'a entendu, m'a conseillé, je me rappelle les premières vocalises des premières répétitions, il m'a dit « Mais Marie-Pierre, il faut prendre des cours de chant et je t'emmènerai voir Maddy Mesplé dans sa classe. »
Aïe, aïe, aïe.
Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pris un premier contact. Je me rappelle, il m'a fait monter tous les étages à pied en me tenant par la main comme
à
une petite fille.
Non,
au conservatoire,
au CNR
ouais. Où Maddy Mesplé était prof de chant. Et là, elle m'a fait entrer dans sa classe, elle m'a dit « Alors Marie-Pierre, bonjour !» Alors, Paul De Cavatta, je me souviens, ils étaient très chaleureux. Et il lui a dit « Je te présente une jeune, là, qui est élève, et il faudrait l'écouter. » Et elle me dit « Alors, qu'est-ce que tu as à me chanter ?» Mais moi, j'avais rien d'autre que le Roi David, j'avais jamais chanté un air d'opéra, j'avais jamais chanté un air classique. Et voilà, je lui ai chanté un petit air du Roi David, et elle m'a dit « Bah écoute, tu viens quand tu veux écouter mes cours dans ma classe.
Bon. »
Et là, j'ai commencé après à prendre des cours particuliers avec son assistante.
D'accord.
Et ensuite, en 84, je suis rentrée dans sa classe. Alors, avant, je suis rentrée comme auditrice, donc elle m'appelait le petit moussaillon, parce que j'avais 16 ans. Voilà,
d'accord.
Donc ce Roi David a été un grand moment de mon début de chant.
Alors, si vous voulez bien, on va écouter ce roi David. C'est un extrait hein, que vous avez choisi. Mm-hmm. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet extrait, non ? C'est le début ?
Alors, c'est la deuxième partie du
roi David. C'est la deuxième partie du roi
David. C'est la deuxième partie du roi David. Alors, il y a un narrateur.
Oui.
Et puis, il y a des chanteurs solistes. Et puis, un chœur de femmes. Voilà. Et puis, un chœur mixte.
Et dans l'extrait que nous écoutons, vous êtes dans le chœur ?
Alors, pas dans cet enregistrement.
Pas dans celui-là.
Non.
D'accord.
Parce que nous, à l'époque, on ne l'a pas enregistré. Mm-hmm. Alors que tout à l'heure, on écoutera un extrait.
Oui, oui. Voilà. Un autre extrait. Je sais que vous êtes dans le cœur. On écoute le roi David, donc de Arthur Honegger.
Promis à Dieu de lui bâtir une demeure magnifique, David voit l'accomplissement des rêves glorieux de sa jeunesse et de sa vie. Il fait proclamer roi d'Israël le fils de Bethsabée, Salomon, le plus cher entre ses fils. Et tandis que Nathan couronne Salomon, il est monté pour voir le temple pour la dernière fois. Nathan dit, devant tout Israël et devant Jéhovah qui l'a choisi lui-même, nous proclamons loin du Seigneur, Salomon, roi, fils de David. Et le peuple cria, vive Salomon, roi!
C'était donc le roi David Arthur Honegger, un extrait un peu déroutant quand même, par le début très contemporain et puis ensuite quelque chose d'un peu plus classique, je dirais.
Apaisé. Hein.
Apaisé, serein, oui, exactement, très
mais
serein.
Mais pourtant dans des harmonies assez difficiles à mélanger, mais quand même qui reste très très audible, très comment dire,
très abordable.
Voilà, très abordable pour toute oreille, pense.
Exactement.
Voilà. En plus avec le récitant, la voix soliste, le chœur. Voilà, on a quand même un panel. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience.
Alors c'est la question que j'allais vous poser, Marie-Pierre. Est-ce qu'on peut dire que ça a été le déclencheur, ce roi David?
Alors, ce roi David, c'était la première fois que je prenais conscience d'une capacité à chanter, parce que j'étais dans la flûte, j'étais au début de l'enseignement, je commençais à enseigner la flûte traversière, j'étais, on va dire, dans la fin de mes études de flûte, même si ça ne s'arrête jamais des études, mais j'étais quand même prise vraiment par la flûte traversière, et d'un coup le chant, et en plus, j'allais à Lyon, donc en habitant à 50 km de Lyon, je partais le lundi matin tôt, je rentrais à la campagne le samedi après les cours à midi. Mais en fait, mes parents ne voulaient pas que je rentre le samedi à midi. Ils trouvaient que c'était trop bien d'aller à la chorale le samedi après-midi. Donc, je rentrais que par le train de 17h le samedi. Donc, le week-end était vraiment très court famille, puisque je vivais à Lyon la semaine. Et en fait, j'avais une chambre chez l'habitant. Et en fait, le samedi, c'était encore chorale pendant 2h l'après-midi. Alors, je crois qu'aujourd'hui, je peux quand même remercier mes parents, quelque part, d'avoir eu cette envie pour moi.
C'est sûr, ça a été
une révélation. Et au même moment, cet intérêt pour le chant, mes parents l'ont eu aussi en m'emmenant à l'opéra pour la première fois. Toute la famille.
À l'opéra de Lyon.
Oui, à l'opéra de Lyon pour la première fois, on allait écouter un opéra, voir un opéra, et bien sûr en s'installant au poulailler, c'est-à-dire le rang le plus haut pour les gens qui ont peut-être pas forcément, qui sont pas forcément
fortunés.
Qui n'ont
pas forcément les moyens.
Voilà. À l'époque, on allait à l'opéra, avec souvent des tenues. Des robes de concert, etc. Maintenant, c'est complètement vulgarisé. Au niveau de l'opéra, les jeunes vont beaucoup à l'opéra. Enfin, il y a une politique aussi.
On ne s'habille plus aujourd'hui pour aller à l'opéra.
Ah non, on ne s'habille pas pour aller à l'opéra. Même si certains ont envie de s'habiller, c'est tout à fait possible.
On en voit encore.
Mais en fait, c'est complètement devenu accessible aussi. Même si les tarifs ne sont pas tous forcément accessibles, mais il y a des places à tous les prix. Pas forcément les mieux placées, il faut reconnaître. Mais nous, au poulailler tout en haut, dans l'ancien opéra, avant qu'il soit rénové dans les années 86-93. Et donc, c'était en 81. Nous sommes allés écouter le Freischütz de Karl Maria von Weber.
Absolument.
Et alors, cet opéra, vraiment, moi, c'est resté gravé, cet opéra, parce que c'était le tout premier. Et justement, je me suis un petit peu, pas identifiée, mais j'ai eu envie d'apprendre des airs de cet opéra. Et entre autres, le rôle de Hänschen, la jeune fille qui chante entre autres « Kommt ein schlanker Bursch gegangen » avec le hautbois solo au début. Et cet air-là, je l'ai vraiment travaillé. Et il m'a servi pour des concours ensuite. Enfin voilà, j'ai aimé le chanter. Et puis, j'étais flûtiste, mais ma sœur jouait du hautbois. Donc, ce hautbois qui commence cet air, c'était aussi...
Et vous l'avez travaillé donc avec votre sœur ?
Oui. Avec ma sœur, on s'est amusé à le travailler ensemble. Bien sûr, il nous manquait tout l'orchestre, mais quand même, c'était ici à la maison, c'était un travail ensemble. Voilà, voilà ce Freischütz qui a vraiment marqué mon entrée à l'opéra dans le public.
Eh bien, puisqu'on en parle, on l'écoute. C'est donc le Der Freischütz de Karl Maria von Weber. J'ai choisi une version de référence dirigée par Carlos Kleiber, et c'est Edith Matisse qui chante donc cet extrait de Hänschen. Kommt ein schlanker Bursch gegangen.
Bye.
Der Freischütz de Karl Maria von Weber. Edith Matisse chantait donc cet air de Henschen. Alors, grande révélation pour vous, Marie-Pierre, ce Freischütz que vous voyez à l'opéra avec vos parents. Et là, c'est l'étincelle, non? C'est quoi?
Oui, c'est-à-dire se dire pourquoi ne pas prendre des cours de chant maintenant, vraiment.
Vraiment.
Et en fait, alors c'est vrai que j'étais partagée entre la flûte traversière où j'allais devenir prof de flûte.
Oui.
Et puis le chant comme une activité de loisir.
Oui.
Complémentaire. Mm-hmm. Donc m'a dit, mais donc j'allais régulièrement, donc entre les années 82, 83, tout ça pendant quelques ans, quelques années, jusqu'à 84, j'étais donc auditrice dans la classe de Maddy Mesplé. J'enseignais la flûte traversière et la formation musicale dans une, dans des écoles de musique autour de Vienne.
D'accord.
Là, dans l'Isère. Et puis, j'ai pris donc des cours particuliers avec l'assistante de Maddy Mesplé. Et ensuite, je rentre dans sa classe au conservatoire en 1984-85. Voilà.
D'accord.
Et là, je vais suivre un cursus d'études d'élèves de conservatoire en chant. Et je vais continuer à participer aux activités du chœur des élèves du conservatoire. Et là, en 1988, cette année-là, c'est Messiaen, Olivier Messiaen et les trois petites liturgies.
Là, vous êtes dans la chorale des étudiants du CNR.
Voilà. En plus de mon... Alors, j'enseigne, je suis élève au conservatoire. Bon, j'ai eu mes diplômes de flûte et de formation musicale, donc
d'accord.
En 83.
Ouais, ouais.
Alors, je continue en chant. Je vais au conservatoire en tant qu'élève de classe de chant et je vais... chanter dans... Je me souviens, c'était tous les mercredis soirs. Donc, après avoir enseigné toute la journée là dans l'Isère, j'allais au conservatoire pour participer au chœur des élèves.
À la
chorale des élèves, où on montait cette année-là. Alors, on dit monter une œuvre, souvent. On prépare les trois petites liturgies de la présence divine d'Olivier Messiaen, pour lequel on doit chanter à l'auditorium Maurice Ravel.
D'accord.
En avril de cette année 88.
Oui.
Et partir ensuite à Murcia, en Espagne.
D'accord.
Pour le chanter dans la foulée. Je me rappelle, c'était la Semaine Sainte à Murcia, avec toutes
avec les
processions.
Les processions, etc.
Ah, ça m'a marqué. Ouais. Et là, donc, on a chanté au théâtre à Murcia. Mm-hmm. Et puis, en même temps, on allait à la cueillette des citrons et des oranges. Quand on avait un petit peu de temps, on avait des petites visites organisées. Et là, on a fait l'enregistrement de ces trois petites liturgies. Alors, pour la petite histoire, la bibliothèque du conservatoire nous achète des partitions de la partie chœur.
Oui, bien sûr.
Ah, voilà. Alors, on n'avait pas du tout la partie orchestrale, ni la partie... On avait ondes Martenot et le piano de Florent Beaufard. Florent Beaufard qui avait 15 ans et qui était déjà un pianiste virtuose et qui a fait une très belle carrière et puis qui maintenant est professeur au conservatoire supérieur.
Ouais.
Et là, nos partitions qui avaient été achetées pour l'occasion, au moment du concert à l'auditorium, Olivier Messiaen était présent.
Lui-même.
Et il avait un peu...
Mais il dirigeait pas.
Non, il était dans la salle en invité d'honneur.
D'accord.
Et en fait, après, je me rappelle, après le concert, il est venu nous rencontrer dans la loge et il nous a dédicacé toutes les partitions. Ce qui fait qu'après, on ne voulait plus les rendre au conservatoire et le conservatoire nous a offert nos partitions.
Bon.
Et donc, je l'ai toujours, cette partition dédicacée. Et ça a été un grand moment. Et ensuite, quelques années plus tard, alors que j'étais entre-temps rentrée à l'opéra, on est parti à Malte. Chanter ces petites liturgies à la Valette.
La même année ?
Non, ça c'était en 1997, donc bien plus tard.
Ah oui, bien plus tard.
Bien plus tard, et là, le conservatoire a fait appel aux anciens élèves, donc j'étais déjà à l'opéra depuis 90, et on nous a fait appel, si vous voulez venir à Malte avec nous, vous êtes les bienvenus pour retravailler. Et l'opéra, vu les circonstances, etc., enfin tout ça, l'opéra m'a autorisé à partir, et donc j'avais donné à nouveau à Malte en 1997.
Bon.
Voilà. Et là, c'est un enregistrement de l'opéra, je mélange entre le conservatoire et l'opéra, parce qu'à l'opéra, c'est vrai qu'on enregistre très souvent.
Bien sûr.
Mais dans le cadre du conservatoire, sous la direction de René Clément, qui était directeur du conservatoire à l'époque, nous avons enregistré ces trois petites liturgies en 1993, avec donc Florent Beaufard au piano.
D'accord.
Et puis, donc cette version-là est authentique de nos études au conservatoire.
Voilà, donc on va les écouter. Trois petites liturgies de la présence divine de Olivier Messiaen.
Voilà, donc là, c'est la séquence du verbe, cantique divin.
Exactement.
Voilà, un mouvement avec beaucoup de caractère rythmique.
Mm-hmm.
Voilà,
mm-hmm.
Avec des mesures difficiles à mettre en place. Je me souviens, le rythme était très difficile. Mais on avait énormément de plaisir parce qu'il y avait la pêche.
Oui, oui, bien sûr. Alors on écoute avec Marie-Pierre Fangeajury dans le chœur. Eh bien, vraiment impressionnant, je trouve. Oui. Impressionnant. Une œuvre splendide, vraiment, vraiment. Moi, ce que je remarque, c'est ce travail du cœur, hein, qui doit certainement être très difficile.
Oui, parce qu'un choriste, bon, mis à part le fait qu'il doit pouvoir lire la musique, la déchiffrer rapidement, il faut aussi qu'il mélange sa voix avec celle des autres.
Bien sûr.
Et il y a tout un travail d'homogénéité à rechercher et de couleur. Et je voudrais juste ajouter que pour ces trois petites liturgies de la présence divine de Messiaen, c'est Catherine Maerten qui nous a fait travailler en tant que chef de chœur.
D'accord.
Elle est professeure de chant au conservatoire de Villeurbanne. Mmh. Et vraiment, moi, j'ai un très, très bon souvenir de tout ce travail de délicatesse autour de la voix et sans oublier la rythmique, etc. Enfin bon, mais dès qu'on a des mouvements lents, il faut beaucoup chercher les couleurs, tous les aigus.
Oui.
Il faut pas... Quand dans un chœur, il y a une voix qui ressort... C'est pas bon.
C'est l'inverse de l'effet qu'on recherche.
Voilà, si on dit à quelqu'un « Ah, j'ai reconnu ta voix dans le cœur », c'est pas du tout un compliment pour nous. Parce
oui,
qu'en fait,
sûr.
Il faut pouvoir ne pas être reconnaissable, mais apporter, oui. j'allais dire un petit peu...
Se fondre dans
voilà,
la...
complètement, apporter oui. quelque chose à un son. Voilà.
Tout à fait.
Et donc, on pourrait mettre ensemble 30 solistes qui ne feront pas forcément un bon cœur, parce
oui,
qu'il faut
bien sûr.
Chacun doit oui. faire abstraction de sa personnalité.
Bien sûr.
Et bien sûr, on va apporter un ressenti.
Hein,
voilà. Voilà. Oui. Chacun va apporter dans l'interprétation, mais il faut penser toujours au mélange des voix.
Mm-hmm.
Voilà. Et donc, à la suite de ça, c'est vrai que voilà, j'avais la flûte, la formation musicale, j'enseignais dans les écoles primaires et j'apportais petit à petit le chant. Aussi dans les écoles, je dirigeais déjà une chorale amateur.
D'accord.
Voilà, j'ai dirigé d'abord à Montsevereau, ensuite à Beaurepaire, et puis après, bon, plus tard à la Tour du Pin ou même
oui,
à Bourgoin un petit
oui,
peu.
Oui.
Voilà. Mais c'est vrai que tout ce travail complémentaire entre être chanteur et être chef de chœur m'a beaucoup apporté aussi dans mon
bien
travail.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Je voudrais juste dire, bon, vous savez, Marie-Pierre, que je suis choriste amateur.
Oui.
Hein, et c'est vrai que sans cesse, les chefs que j'ai eus tout au long de ma petite carrière nous disent et nous continuent à nous dire, mais ce qui compte, c'est le son du cœur.
Voilà.
C'est pas votre son à vous, c'est le son du cœur.
Tout à fait.
Son homogène.
Voilà.
Voilà. Voilà.
Exactement.
Alors, nous voilà donc en 89.
Oui.
Vous donnez un concert d'élèves au conservatoire
tout à fait.
Régional.
Voilà, là, j'étais en niveau supérieur au conservatoire.
Ouais.
Et donc, les grands élèves étaient sollicités pour chanter en soliste.
D'accord.
S'il y avait besoin pour
oui.
des concerts préparés par mm-hmm. Les élèves du conservatoire.
D'accord.
Et là, j'ai dû chanter soprano, premier soprano. Nous étions trois solistes femmes.
Oui.
Et c'était une œuvre de Jean-Guy Bailly sur des poèmes d'amour de Louise Labbé.
D'accord.
Donc, ici, j'étais soprano 1, et la soprano 2 était déjà dans le chœur de l'Opéra de Lyon depuis un an.
Mm-hmm.
Et c'est là qu'au cours des répétitions, elle me dit, mais Marie-Pierre, pourquoi tu tenterais pas l'entrée à l'opéra, dans le chœur? Et moi, je me disais, mais ben non, mais je suis flûtiste. Et en même temps, elle me disait, mais non, mais le chant, je l'ai toujours fait pour le plaisir. Et puis d'un coup, ça a fait
son chemin.
Ça a fait son chemin dans ma tête. Et je suis allée passer une audition auprès du chef de chœur en novembre 1989,
oui.
Et là, j'ai chanté Michaela, donc dans l'opéra de Carmen,
hein,
qui est l'amoureuse de Don
oui,
José, hein,
oui.
la jeune fille timide, je dis que rien ne m'épouvante, voilà cet air de Michaela. Et là, il a voulu m'engager en supplémentaire dans le chœur de l'opéra à partir pour avril.
D'accord. Et
moi, j'étais prof de flûte. Enfin,
ouais,
je voyais.
Bien sûr.
Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ça m'a donné confiance et je me suis dit, allez, ben, je vais préparer le concours et pourquoi pas quitter l'enseignement pour rentrer dans le chœur de l'opéra.
Autrement dit, si je comprends bien, excusez-moi, je vous interromps,
non,
Marie-Pierre,
je
mais pour rentrer dans le chœur de l'opéra, il faut passer un concours.
Ah oui, c'est un concours international.
C'est un concours international.
Ah oui, complètement. Devant la direction de l'opéra, devant aussi les élus de la ville de Lyon, parce que nous devenons des salariés de la ville de Lyon.
D'accord.
Quand on a un poste.
Oui.
Et en fait, donc j'ai préparé le concours du mois d'avril. Alors il faut préparer deux airs d'opéra.
Oui.
Bien sûr, pour la tessiture. Donc, comme je oui. suis soprano, j'avais choisi « O quante volte » des Capulet et des Montaigu de Bellini.
Oui.
Et puis, j'avais préparé de Gluck, en français, l'air de Rédis.
D'accord.
Et donc, ensuite, il
le
y avait...
Le fameux air « J'ai perdu mon Eurydice ».
Alors non, ça, c'est l'air d'Orphée.
Ah, pardon.
Ça, c'est l'air d'Orphée. Elle chante... parce que son amour...
Ah oui, d'accord, je vois.
Etc. Ouais. Voilà, en français. Et voyez, ça me revient même pas. Il y a longtemps que je n'ai pas chanté cet air-là. Et en fait, après, il y a un chœur imposé. Donc, on doit chanter des extraits de chœur. Et ensuite, un déchiffrage vocal.
D'accord.
Devant, avec le chef de chœur. Donc, j'ai passé les épreuves. C'est vrai qu'au départ, il y avait 80 candidats. Au deuxième tour, nous étions 40. Et puis à la fin, on se retrouve que 10. à peu près. D'accord. Et puis pour la toute dernière épreuve, donc qui était le déchiffrage, je me rappelle, j'étais devant le chef de chœur et comme j'avais un premier prix de déchiffrage en flûte traversière, j'avais quand même un bagage musical qui m'a servi, faut reconnaître.
Bien sûr.
Et je me souviens que Kent Nagano, le chef d'orchestre de l'époque, voulait des chanteurs qui soient des musiciens à part entière. Il fallait qu'on soit capable de déchiffrer une partition à vue, comme un instrumentiste.
Voilà. Donc on ouvre la partition et on chante.
Et on chante. Ouais. Et donc, ben, j'ai pas trop mal réussi, je pourrais même dire que ça s'est bien passé. C'était très rythmique, avec beaucoup de changements de mesure. Ouais. Enfin bon, voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai réussi assez correctement, on va dire, ce concours, où j'ai été la seule Française reçue, je m'en souviens. Il y avait une Bulgare, une Anglaise, une Australienne, une Marocaine. Et donc, je suis entrée comme stagiaire dans le chœur de l'Opéra de Lyon. Alors, comme le concours était en avril et que j'étais toujours prof de flûte traversière, en fait, eh bien, j'ai pu démissionner tranquillement puisque la prise de poste était pour septembre.
Oui.
Alors, pour moi, c'était...
Donc, vous passez le concours en avril et on vous dit, vous êtes embauchée et vous démarrez en septembre.
Voilà, on savait très bien. Et c'est toujours comme ça. Les concours se passent à l'avance et la prise de poste est quelques mois après.
D'accord.
Pour que les gens aient le temps de se préparer à venir. Et donc, pour moi, c'était idéal.
Je souffle parce que moi, je suis épatée, quoi, hein, quand même.
Ouais, mais celle-là, c'est vrai. Alors là, la vie change.
Oui, bien sûr.
Voilà, et on voit complètement un avenir différent.
Bien sûr.
Donc, c'est vrai que j'ai pu, j'allais dire, entre guillemets, faire mes adieux à l'enseignement alors que j'y étais depuis 8 ans dans les écoles de musique.
Ouais.
Et puis, c'était un petit peu, même pour les écoles de musique, c'était un peu prestigieux de dire, on a une prof qui rentre dans le chœur de l'Opéra de Lyon. Mais
bien
moi, j'avais pas du tout cette dimension-là. Et je trouvais que c'était trop. Enfin, c'était un peu, on me faisait des cadeaux de fin d'année et tout, parce que je rentrais dans cette grande maison qui est l'Opéra de Lyon. Mais en fait, quand on rentre à l'Opéra de Lyon, ben, on fait partie d'un groupe.
Oui.
Et en fait, les stars, ce sont les solistes. Nous, on fait partie, j'allais dire, pas la cinquième roue du carrosse, mais on fait partie de l'effectif.
Ah bah non,
de l'effectif
l'importance des chœurs dans les opéras.
C'est vrai que c'est important.
Ça dépend des compositeurs, bien sûr.
On se retrouve dans un groupe.
Bien sûr.
Comme le groupe orchestre, il y a le groupe chœur.
Mm-hmm.
Et puis, alors bien sûr, si j'avais choisi, par exemple, une carrière de soliste, d'ailleurs, bon, j'en avais pas du tout l'ambition. Pour moi, rentrer dans le chœur, c'était déjà phénoménal.
Bien sûr.
Voilà.
Ouais,
après, quand on veut faire une carrière de soliste, c'est vrai qu'on demande au départ les mêmes capacités vocales, mais alors la carrière du soliste, c'est complètement différent.
Autre chose.
Ah oui, c'est complètement différent. Ouais, c'est une vie différente. C'est énormément de pression au niveau des concours,
de
concours. Mmh. Alors, je parle pas des gens qu'on a côtoyés qui font des très très belles carrières et qui eux ne passent pas des auditions, mais il y a beaucoup de chanteurs pour devenir soliste, ils ont des agents artistiques
bien sûr,
ils vont passer des auditions très régulièrement pour trouver du travail tout le temps dans d'autres maisons. Et puis quand ils commencent à avoir une grande réputation, ils n'ont plus besoin de passer d'audition. On les appelle et ils ont des plannings, des emplois du temps à 4 ou 5 ans.
Ceux-là, on les compte sur les
ce sont des gens qu'on a côtoyés et qu'on est complètement admiratif de ces gens-là. Et tous les jours, on apprend des choses à leur contact. Alors, quand j'ai commencé, premier opéra de l'année 90, en plus, on n'était pas à l'opéra. L'opéra était encore en réfection, puisque l'opéra était en travaux de 1986 à 1993.
Oui.
Donc, premier opéra à l'auditorium Maurice Ravel, les trois souhaits de Bohuslav Martinů. Moi, j'avais jamais entendu ça. Un compositeur tchèque qui a donc composé cet opéra en 1959. Les trois souhaits qu'on a chantés en français.
D'accord.
Et dans la foulée, L'amour des trois oranges de Prokofiev. Mais j'avais jamais non plus entendu parler de L'amour des trois oranges.
Dans la foulée.
Dans la foulée, dans sa même année. Voilà.
D'accord, dans la même année.
Dans cette année-là, on a à peu près chanté sept ouvrages. Et alors, il y avait cet Amour des trois oranges qui nous a fait voyager dans le monde. Et alors, c'était incroyable. Et chanté en français par des artistes français, entre autres. Voilà, c'était vraiment... alors, pour moi, c'était complètement dingue de découvrir des opéras. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait Verdi, Mozart,
Puccini,
Offenbach, Puccini.
Bellini, etc.
Voilà. Et d'un coup, on se trouvait dans des opéras complètement... fantastique. Ah oui, complètement une découverte.
Oui.
Et en plus en français, alors que Prokofiev, quand même, moi je pensais chanter en russe.
Oui.
Mais non, on l'a chanté complètement en français.
D'accord.
Et là, on est allé à San Francisco en 95, on est allé à Ravenne en Italie, on l'a donné en Allemagne, enfin bon, voilà. Et puis, c'était extraordinaire.
Alors là, c'est un vrai changement de vie, hein, quand même.
Complètement.
Entre prof de flûte traversière dans les écoles de musique et choriste à l'opéra. Choriste, pardon, artiste lyrique.
Oui,
à l'opéra.
Non, mais voilà, artiste du cœur.
Là, on change de vie.
Ah oui, complètement. L'emploi du temps est complètement différent.
Donc, on prend l'avion à peu près 4 ou 5 fois par an.
Oui, et puis on va en région quand même aussi beaucoup.
Oui, bien sûr.
On allait à Clermont. Alors, il y avait des partenaires. Il y a beaucoup de partenariats avec la région.
Oui.
Donc, en fait, bon, alors on allait hors région, qui maintenant est région, c'était Clermont-Ferrand. Et en fait, on allait à Annecy. On allait, voilà, bien on sûr. Allait en région, vraiment Chambéry, ouais. Grenoble. Voilà, on faisait des petits voyages de 24 heures ou voilà, des choses d'accord. comme ça. Mais les grands voyages à l'étranger, ça coûte quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Oui, bien sûr.
De faire partir tout l'Opéra de Lyon.
Claire.
Donc, on est parti aussi au Japon. Là, on partira au Sultanat d'Oman au mois de novembre. Ce sont des voyages qui coûtent très, très cher.
Bien sûr.
Donc, il faut trouver les fonds. Ouais. Hein, et donc, il y a des aides. Enfin, ouais. voilà, il y a du mécénat. Y a... Bon, mais ça, après, c'est institutionnel. C'est les oui. politiques des maisons
bien
d'opéra.
Sûr. Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'on enregistre beaucoup.
On a voilà. une grande chance à Lyon, d'ailleurs,
oui,
je
oui,
pense,
oui.
d'avoir des personnes qui considèrent que c'est essentiel d'avoir
tout à fait.
Non seulement l'opéra, mais également l'auditorium.
Voilà. Hein, et il faut avoir des saisons qui sont, j'allais dire, intéressantes,
bien sûr.
Qui innovent, mm-hmm. qui font aussi du répertoire, mais qui font aussi beaucoup de création.
Tout à fait.
Et puis, c'est toujours chercher à aller plus loin, plus loin. Donc, on est dans une totale progression. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Je suis toujours impressionné, justement, voilà. par l'esprit contemporain de l'Opéra
aussi,
de Lyon.
Aussi, beaucoup. Et pour nous, on est toujours dans la découverte de nouveaux ouvrages. Ouais. Donc, voilà, cet amour des trois oranges.
Alors, l'amour des trois oranges, puisqu'on en parle, il y a le tube
oui.
de cet opéra. Ouais. Et on va l'écouter là, tout de suite, la marche de l'amour des trois oranges. Ah oui, hein, ça décoiffe, comme on dit vulgairement. Hein. Moi, c'est une musique qui vraiment m'intéresse. Ce que je voudrais savoir, Marie-Pierre, quand on est choriste à l'opéra, est-ce que malgré tout le travail qu'on fait, on a encore des émotions? Est-ce que...
Heureusement.
Oui, j'espère. Mais bon...
mais pas toujours, c'est vrai.
Le travail est un travail habituel, hein, mm-hmm. en quelque sorte. Mm-hmm. Est-ce qu'arrive un moment où quand même, je le dis souvent pour mon compte personnel, j'ai les
chairs de poule. Les poils qui dressent, j'ai la chair de poule, ouais. Alors, heureusement qu'il y a des émotions. C'est vrai que c'est un travail, habituel et en même temps très varié. Donc, on prépare un ouvrage sur à peu près... Ça va durer un mois et demi, mais souvent pendant qu'on prépare un ouvrage, quand arrivent les spectacles, on est déjà dans la préparation du suivant, donc il y a un tuilage
oui.
des ouvrages.
Oui.
Donc par exemple, pendant une semaine, on va travailler musicalement avec le chef de chœur et on va découvrir les œuvres. Donc là, c'est le déchiffrage, donc avec la pianiste du chœur qui est là pour soutenir, mais pour représenter l'orchestre. Hein.
Mmh.
Voilà, elle joue le rôle de l'orchestre en répétition. Le chef de chœur nous donne toutes les indications musicales. Ça va durer par exemple pendant une semaine. Matin, après-midi, on va travailler pendant 2h30. Et au cours de ce travail, 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi, au cours de ce travail, on va découvrir des très beaux passages qui vont nous transporter. Et puis des choses qu'on va trouver un peu pas très marrantes.
Pas
très intéressantes à chanter.
Oui.
Et puis au fil du temps, alors, au bout d'une semaine de travail, on sait à peu près l'œuvre par cœur. D'accord. On passe dans les mains du metteur en scène. Mm-hmm. Entre-temps, le chef d'orchestre est venu faire une répétition avec le chœur en nous donnant ses indications musicales, hein, qui peaufine un petit peu le travail du chef de chœur. Mais le chef de chœur doit nous préparer à donner un produit déjà intéressant au chef
d'accord.
d'orchestre.
D'accord.
Et ils ont souvent travaillé en amont ouais, ensemble.
Bien sûr.
On va passer dans les mains du chef d'orchestre. Et alors là, les émotions, elles s'envolent.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'en fait, on fait un travail technique. On piétine, on s'assied, on se couche par terre, on doit avoir des accessoires, on fait ce que le metteur en scène nous dit de faire.
Ouais.
Mais en même temps, on découvre les solistes.
Bien
et
sûr.
Les solistes et leur rôle qui chantent, mais qui chantent mm-hmm. pas complètement à pleine voix.
Ouais.
Donc ça va durer à peu près 2 semaines avec toujours le piano qui nous accompagne à toutes les répétitions, et le chef d'orchestre qui veut des indications, qui veut qu'on applique toutes les indications musicales, alors qu'on doit penser à plein de choses à la fois,
ouais,
parce
ouais.
qu'il y a toutes les indications du metteur en scène. Parfois on nous parle en langue étrangère, souvent en anglais. Il faut parfois que quelqu'un traduise un petit peu s'il y a des subtilités du
ouais,
texte, etc.
Bien sûr, ouais.
Et puis arrive le moment de l'italienne où on va rencontrer l'orchestre qui a répété 2 ou 3 jours avant. Et alors pour cette italienne, on va retrouver les solistes qui vont chanter à, comment dire, leur rôle dans l'intégralité émotionnelle aussi. Et puis nous qui allons chanter le chœur sans mise en scène, on va découvrir toutes les sonorités de l'orchestre. Et là, on n'est plus qu'à 4 ou 5 jours des spectacles. Donc c'est très concentré. Et
d'accord.
là, les émotions commencent à arriver encore plus. Voilà.
Bien sûr.
Et par exemple, des émotions, on en a eu par exemple avec Madame Butterfly. Quand on a dû chanter ce chœur bouche fermée de Madame
Tout
Butterfly,
à fait.
Qui est très très complexe.
Mm-hmm.
Et en fait,
tu veux bien croire.
Voilà. Et c'est complexe, mais c'est tellement chargé d'émotions hein, avec tout ouais. ce drame qui se noue à la fin.
Ouais. Alors, on va l'écouter, ce fameux chœur à bouche fermée. Moi, je l'ai écouté avant de venir aujourd'hui, hein, enregistrer cette émission, et je dois dire que effectivement, ça me donne la chair de poule. On écoute.
Thank you.
Eh bien, effectivement, j'ai la chair de poule.
Alors, on pourrait continuer parce qu'il en existe, hein, quand ouais. même. Des airs pour lesquels on a les larmes aux yeux.
Oui, tout à fait. Ça, je veux bien croire.
Nous aussi, en chantant. Franchement, oui. Par exemple, au Japon, l'année dernière, Daphnis et Chloé.
Oui.
C'était, et puis alors, enfin, c'était monstrueux, quoi, le, les émotions, vraiment, et puis ce chant.
Daphnis et Chloé de Maurice Ravel.
De Maurice Ravel, hein, qui est un ballet, mais où la partie de chœur est quand même importante aussi, où les instrumentistes ont tellement de choses à dire.
Oui.
C'est tellement solistique pour tous, c'est tellement une musique à fleur de peau et en même temps. Mais je me souviens, pendant les applaudissements, on était très nombreux à avoir la chair de poule, et autant à l'orchestre que dans le chœur. Et en fait, et d'ailleurs, pour l'hymne des chérubins, l'orchestre pleurait quand on le chantait dernièrement, là, au mois de mai aussi. Voilà. Donc, il y a des moments très, très forts. Et c'est vrai que, autant notre métier, on a des metteurs en scène très, très variés aussi. Mais dernièrement, avec Peter Sellers, on a vécu des moments énormes d'humanité, de profonde humanité. Et puis, parfois, on a des metteurs en scène qui ne nous intéressent pas.
Oui.
Mais on doit faire le travail. C'est notre travail et on doit toujours faire le mieux possible. Et ce qui est important, c'est la vitrine. C'est de l'Opéra de Lyon C'est de faire notre travail le mieux possible
et que le
public soit enrichi de ce travail, quel qu'il soit.
Ce que vous disiez là à propos de « c'est notre travail », ça me rappelle une anecdote avec justement un professionnel de la musique, et on lui disait « bon, mais à part chanter, vous faites quoi dans la vie ?» Non, je chante. Voilà. C'est mon métier.
Voilà. Oui, mais c'est vrai que notre amplitude horaire, elle peut être de 10h le matin jusqu'à minuit.
Oui. Hein,
certains jours c'est 10h-17h, d'autres jours c'est 14h-23h. Il y a aussi l'échauffement vocal, il y a le travail personnel, voilà,
bien
il y a tout
sûr.
Ça
hein. Bien sûr.
Donc c'est vrai que ce Daphnis et Chloé a été un très très grand moment.
Alors on va l'écouter donc
le final.
Le final, Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, la danse générale.
Yeah.
c'était Daphnis et Chloé, c'est magistral. Hein.
Ah oui, et puis il y a des passages très, 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 très doux dans le début.
J'ai l'impression que le cœur, là, il doit donner à fond.
À fond,
là.
À fond pour la fin. Ouais, à fond, vraiment. Et puis, les rythmes sont très décalés. Donc, il faut, voilà. Ouais. Mais c'est le boulot.
Mais c'est le travail, c'est le travail. Voilà. Hein. Je rectifie un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce professionnel de la musique, on lui a pas dit qu'est-ce que vous faites dans la vie. On lui a dit mais c'est quoi votre vrai métier.
Ah oui, c'est quoi votre vrai métier. Voilà. Et ben c'est vraiment de chanter pour nous. Et voilà.
Exactement.
Et c'est vrai que chanter, c'est travailler toute sa vie à apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on passe notre temps à découvrir des nouvelles œuvres. Donc on s'enrichit totalement de tout ce qu'on apprend et puis continue à prendre des cours. Toujours besoin d'une oreille extérieure.
Bien sûr.
Et en plus de ça, on essaye aussi de chanter en soliste en dehors du chœur.
Voilà.
Voilà. Donc c'est pour ça que parfois on a des ensembles de musique de chambre. Hein, voilà. Ou alors on est invité à chanter en soliste avec d'autres orchestres,
d'accord,
etc. Et puis ça fait partie de notre formation continue, on va dire, parce que ça nous permet d'être toujours stimulés, vraiment stimulés par la recherche de toujours être j'allais dire efficace,
avoir
du rendement, enfin d'être performant, voilà,
performant,
d'être performant.
Voilà,
il faut rester performant toute sa vie, tout le temps. Voilà. Et c'est vrai qu'auprès des rencontres des grands solistes, bon, c'est vrai qu'on a eu des Nathalie Dessert, Rolando Villazone, Roberto Alagna, etc.
Ouais,
on les a côtoyés.
Le charmeur, hein, Roberto Alagna.
Pas mal. Oui. Mais bon, il faisait bien son travail aussi. Hein, c'est quand même un bon chanteur. Karine Deshaies, actuellement.
Ah oui, bien
voilà,
sûr.
Par exemple, à l'opéra, j'ai fait le rôle du pâtre dans L'Enfant et les Sortilèges aux côtés de Karine Deshaies.
Alors,
moi, c'était un tout petit rôle, le pâtre. Et puis, elle avait le rôle de l'enfant. Enfin, c'était génial.
Ouais,
voilà.
Bien sûr. Donc, vous avez côtoyé les plus grands, bien sûr. Et puis, vous en parliez à l'instant, donc des implications personnelles.
Oui.
Et donc, vous êtes aujourd'hui membre du trio Stentato.
Voilà.
Voilà.
Nous sommes donc trois avec violon, violoncelle, donc soprano, violon, violoncelle.
Ouais.
Nous faisons des transcriptions ou des arrangements d'air d'opéra, mais aussi de l'oratorio, de la mélodie française ou autre. On va même un petit peu vers le tango. Voilà, pour pouvoir aller au devant des publics aussi.
D'accord.
Ailleurs, peut-être que dans les grandes maisons d'opéra, donc des festivals d'été, voilà.
Ouais.
On va un petit peu partout avec ce trio.
On peut avoir le plaisir de vous entendre en soliste avec le trio Stentato.
Voilà, entre autres. Voilà.
D'accord. Vous avez un site internet, je crois, d'ailleurs, Trio Stentato.
Oui, c'est ensemblestentato.fr.
Voilà. Donc, on peut aller voir.
Voilà. Et Stentato étant une indication musicale qui indique chanter, enfin, s'exprimer comme un stentor. Donc,
exactement.
C'est une, dans les partitions, c'est une indication qui dit chanter à pleine voix.
D'accord.
Voilà. Et on s'est inspiré d'une partition de Candide de Bernstein, Glitter and Biguet, où il écrit, Bernstein écrit Stentato. À un endroit.
D'accord.
Voilà, et on a pris ce mot-là.
C'est ça l'origine.
Voilà, c'était notre travail du trio.
Alors, on a beaucoup parlé des émotions,
et vous
en avez parlé superbement. Alors, on va terminer notre entretien, si vous le voulez bien, Marie-Pierre, avec ce fameux air qui vous a bouleversé.
Ah oui, complètement. Et c'était dernièrement, là, au mois de mai, dans la mise en scène de Peter Sellers, l'hymne des chérubins de Tchaïkovski, qui a été intégré à l'opéra Yolanta.
Oui, qui passe actuellement à l'opéra.
Voilà, qui était à l'opéra là au mois de mai, qu'on avait créé au Festival d'Aix-en-Provence l'été dernier, où on était resté 5 semaines en résidence. Et d'une profonde humanité, et ce cœur des chérubins, c'est la lumière. Il y avait des moments où on était, mais il fallait tellement que nos voix soient mêlées les unes aux autres. On en était à bout de souffle, en chantant presque rien, tellement on retenait la voix pour qu'il sorte un filet.
Bien
et
sûr.
Le public nous a dit, mais voilà, il fallait absolument que tout le monde soit en suspension. Et je crois que c'est un travail qui a réussi. Et on chantait pendant 7 minutes a cappella, avec l'orchestre qui nous reprenait derrière, à 8 voix a cappella. Et on a réussi tous les soirs à rester juste. Et l'orchestre, les musiciens nous disaient, mais on a les larmes aux yeux.
Je comprends la difficulté et je comprends l'émotion.
Et en même temps, on faisait des gestes.
Oui.
Parfois, on était à genoux, parfois, on avait les bras vers le ciel, parfois, on avait les yeux cachés. Et on ne voyait même pas le chef. C'était entre nous. On sentait dans notre respiration le moment où il faut chanter.
Merveilleux.
Merveilleux.
On écoute. On écoute tout de suite. très sincèrement, je comprends votre émotion.
On le chantait deux fois plus lentement que ça.
Oui. Très, très beau. Merci Marie-Pierre de cet entretien.
Merci à vous.
J'aurais normalement dû annoncer plein de choses musicales sur la région. Alors je vais faire très court. Donc il faut aller consulter le site du Théâtre du Vélin d'abord, qui est à notre porte, hein. théâtre.capi-aglo.fr. Vous allez voir, il y a un programme cette année assez extraordinaire. Je parle bien sûr du programme de l'Opéra de Lyon qui est toujours en cours avec du jazz, beaucoup de jazz en lien avec Jazz à Vienne bien sûr, l'enlèvement au sérail de Mozart et puis beaucoup d'autres choses. Et là aussi, il faut aller voir le site opéra-lyon.com. Voilà, n'oublions pas Jazz à Vienne bien évidemment, n'oublions pas non plus bientôt le festival Hector Berlioz et puis prochainement en septembre-octobre, le festival d'Ambronay, festival baroque. Merci encore Marie-Pierre.
Merci, c'était un grand plaisir de venir partager
aussi
cette passion.
Merci aussi à Sandrine qui était à la technique et qui me fait les gros yeux parce que je suis beaucoup trop bavard. À bientôt, au revoir.